Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Okapi Service. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous servir. Quelles précautions la RDC doit prendre en cette période de dérèglement climatique? On en parle aujourd'hui avec le professeur Kabasele Yenga Yenga Albert, professeur ordinaire, maître des recherches et directeur général de l'Institut supérieur pédagogique technique. Professeur Albert Kabasele, bonjour. Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations, composez les 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Comment avoir un accouchement épanoui? On en parle dans la deuxième partie de cette émission de la vie au quotidien avec Madame Stéphie Loaloa Moana, qui est experte en physiologie de la femme. Elle sera là et nous aurons beaucoup plus de détails par rapport à ces thématiques. Pour participer à cette émission, le standard est déjà ouvert. Composez les 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Dieudonné Nyanga Salamizanon, Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Nelson Nyombe au multimédia. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radiookapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radiookapi.net, la radio en différé à votre service.
Bien. La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, était de nouveau sous les eaux entre la nuit du samedi et le dimanche dernier, en pleine saison sèche. Voilà, c'est un signe implacable du dérèglement climatique. La récente pluie surprise tombée en pleine saison sèche n'est que la partie émergée d'une crise écologique profonde qui transforme pratiquement les calendriers des saisons sèches et saisons des pluies. Alors, quels sont les facteurs à la base de ces dérèglements climatiques et quelles sont les précautions à prendre, comment se comporter face à cette réalité qui peut s'aggraver avec le temps? Pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui le professeur Kabasele Yenga Yenga Albert, qui est professeur ordinaire, maître des recherches et directeur général à l'Institut supérieur pédagogique technique. Professeur, ravi de vous avoir encore aujourd'hui dans cette émission.
Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi.
Bien, alors, une forte pluie en pleine saison sèche, qu'est-ce que cela signifie?
Oui, il s'agit là d'un dérèglement climatique, vous l'avez très bien dit. Un dérèglement climatique qui ne fait l'ombre d'aucun doute que le climat est en train de changer, le climat est en train de s'emballer, le climat est en train d'aller vers les phénomènes extrêmes, c'est-à-dire quand il pleut abondamment, et quand il ne pleut pas, il ne pleut pas, il ne pleut plus. Et les sécheresses vont s'accentuer et les inondations crescendo. Donc, les canicules vont nous surprendre et l'érosion du sol va s'accélérer et nous devons nous préparer.
Donc, ce n'est que le début.
Ce n'est que le début parce que je l'ai bien dit, nous qui sommes des spécialistes du climat, c'est notre domaine, nous suivons de plus près comment ces phénomènes sont en train de s'accélérer. dans les années 1990, donc avant que le président Mobutu parte, on avait une inondation tous les 10 ans. Il fallait attendre 10 ans pour voir Makelele se fâcher. Et après 10 ans, Makelele se fâche encore.
Et donc c'était un cycle.
Voilà. Et maintenant, après le départ de Mobutu, vers les années Afdel, on a commencé à avoir des inondations tous les 5 ans.
Ah, c'est plus tous les 10 ans, maintenant c'est tous les 5 ans.
Voilà. Et après l'an 2010, sous Joseph Kabila, on a commencé à avoir des inondations tous les 3 ans, ainsi de suite. Et maintenant, là...
Maintenant, on risque d'en avoir tout...
Chaque année.
Chaque année.
Chaque année, exactement. Donc, ça veut dire que la fréquence et l'occurrence des inondations est en train d'augmenter de manière géométrique. Sur 20 ans, 25 ans, la récurrence a été divisée par 4. Donc, nous devons nous attendre chaque année aux inondations. Et ces inondations vont nous surprendre chaque fois qu'on les tienne au mois de novembre, que les auditeurs me suivent très bien.
C'est seulement en RDC ou c'est
un phénomène partout ailleurs, un phénomène mondial. Un phénomène mondial, oui. Mais qui se manifeste
avec des particularités
selon les zones géographiques.
Oui.
Il est dû à deux grandes causes.
Lesquelles?
La première cause, c'est le phénomène d'El Niño, le réchauffement des eaux de l'océan Indien. Et ce réchauffement envoie beaucoup de nuages et beaucoup d'eau dans l'atmosphère. Et les nuages cumulonimbus se forment. Et ces nuages migrent à cause des vents d'Est. Ces nuages migrent vers l'Afrique centrale que nous sommes. Et nous devons nous attendre à l'accélération de ce phénomène El Niño. Le temps me manque d'expliquer l'inso El Niño. Il y a une deuxième cause... C'est l'augmentation des gaz à effet de serre, qui est un phénomène industriel lié à la croissance à 2-3 chiffres de la Chine, des G7, des G8, des G20. Donc, et c'est cela qui fait que l'atmosphère est surchargée des gaz à effet de serre et qui augmente la température de l'air. Et cette température de l'air augmente l'évaporation des océans et des forêts. Et le réchauffement des océans et des forêts envoie beaucoup d'eau dans l'espace et on doit s'attendre aux grandes précipitations.
Mais pourtant, on nous dit souvent que les forêts du bassin du Congo, ça permet quand même d'atténuer les effets là.
Non, les forêts séquestrent le carbone. Les forêts font que les gaz à effet de serre soient un peu stoppés, protégés, gardés, enfouis dans le bois. Mais émettent beaucoup d'eau par évapotranspiration. Donc vous ne pouvez pas demander aux forêts de ne pas émettre l'évapotranspiration, c'est leur rôle premier. Et ce phénomène s'accélère à cause du réchauffement, les forêts dégagent beaucoup d'eau par évapotranspiration, c'est leur rôle, mais de manière exagérée avec le réchauffement. Voilà ce qui fait que le mois de novembre et le mois de décembre sont des mois déluge.
Il y aura beaucoup de catastrophes.
On aura entre 150 et 200 mm d'eau par mois en novembre et en décembre. Sachez que pour toute l'année, Kinshasa est inondé par 2000 mm d'eau par an. Donc 2000 mm d'eau, ça veut dire 2000 tonnes d'eau par hectare par an. C'est ça la valeur en eau que nous attendons. 2000 tonnes d'eau par hectare par an. C'est ça la pluviométrie locale. Donc nous sommes dans une zone vraiment pluvieuse.
Et quelle était la quantité avant d'avoir cette quantité-là?
Kinshasa, dans les anciens temps, était entre 1500 et 1800. Maintenant, on est à 2000.
À 2000.
Donc on sent que il y a suffisamment d'eau pour inonder la ville. Et le malheur est que la saison sèche s'est prolongée. Donc on n'a pas 3 mois de saison sèche comme on les avait juin, juillet, août dans l'ancien temps. Non. Maintenant.
D'ailleurs, la saison sèche a commencé en retard. Les gens se demandaient mais qu'est-ce qui se passe avec cette saison sèche?
Non, j'informe tous ceux qui nous écoutent et vous-même que la saison sèche n'a pas encore commencé.
Ah bon?
Oui, mais
la saison
de pluie prolongée. La saison sèche commence quand les températures vont baisser. Quand il fait chaud, tant qu'il fait encore chaud, ce n'est pas la saison sèche.
Mais il y a des jours où on se réveille le matin, les températures ont baissé, et après, pendant la journée,
exactement, vous venez de le dire, il y a deux marqueurs de température. C'est la température maximale de la journée et la température minimale de la journée. Quand nous observons ces deux marqueurs, la température maximale de la journée n'est pas encore descendue à 24 degrés Celsius pendant la saison sèche. Pendant la saison sèche, on doit avoir 24 degrés Celsius. Mais les maxima. Mmh. Mais maintenant, on est encore à 28, 30, voire 31. Il fait encore chaud. Alors, comme il fait encore chaud, c'est que l'évapotranspiration est grande. L'évaporation des eaux de surface est grande. Et les noyaux de condensation qui sont dans les nuages provoquent la condensation des nuages et accélèrent les précipitations.
Donc la saison sèche n'a pas encore commencé.
Et elle va commencer peut-être dans une semaine ou deux. Et nous devons nous attendre encore à quelques pluies, quelques averses.
Peut-être dans d'autres provinces, peut-être au Katanga,
chaque milieu a ses réalités.
Oui.
Et c'est ça qui diversifie le réchauffement climatique. Et alors, nous devons nous attendre à la saison sèche à partir du mois de juillet, août, septembre, octobre. 4 mois de saison sèche. Oui, 4 mois de saison sèche.
Un instant, professeur. On va accueillir Ismaël Mumpoyi de Lubumbashi. Nous parlons du changement climatique, des règlements climatiques. Comment se comporter? Quelle attitude adopter? Ismaël Mumpoyi de Lubumbashi, bonjour. Et quelle est votre question?
Bonjour, je dis Daniel Kacham. Bonjour à l'invité. Merci beaucoup pour... et ça va l'air aussi. Bon, je m'en vais plus vite poser la question à l'invité. Il nous a bien expliqué l'importance de la forêt. Presque aussi des avantages. Disons, d'une part, la forêt doit être protégée par l'État congolais. D'autre part, c'est la même forêt qui protège la population congolaise et le monde en général. Mais d'autre part, c'est la même forêt qui fait en sorte à ce qu'il y ait la pluie en abondance. Et cette même pluie provoque les inondations. Mais maintenant, la question que je pose à l'invité, l'expert, que devons-nous faire? Soit couper maintenant massivement les bois ou les protéger dans le sens qu'aujourd'hui, comme il a expliqué par l'hectare, c'est autant de milliers de tonnes d'eau par hectare. Là, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement?
Voilà, faut-il
ça,
couper
les
bois?
Ça, c'est le dérèglement climatique. Mmh. Mais les comportements vis-à-vis de la population vis-à-vis de la pluie et des inondations. Vous voyez tous ceux qui se sont afflués à Kinshasa. On disait la Kinshasa était Kinshasa la belle. Mais maintenant, vous êtes venus. Vous avez trouvé cette Kinshasa était belle. Et vous avez fait ce dont vous êtes en train de faire. Jeter des bouteilles par-ci, par-là et consorts là. Il n'y a pas le système de drainage. Mais là, je ne sais pas comprendre l'erreur de la pluie ou de la population. L'invité, je pense, il peut nous spécifier. Mais quel est notre regard vis-à-vis de tout ce qui se passe? Faites des menaces à Kinshasa, aller ailleurs, ou comment on les appelle, l'événement là, on l'appelle comment, Lingala?
Quoi ça?
Il a fallu à ceux qui leur dire non, vous êtes venus, il faut vous conformer. Vous construisez, respectez les normes urbanistiques. Cela aiderait la population.
Ah, vous parlez
de voyez, des constructions ici à Lubumbashi que nous sommes, cela n'est pas arrivé depuis 2009 et 2011. C'était une inondation dont les gens ont beaucoup pleuré leur maison. Pourquoi? Parce que d'autres étaient construits jusqu'au bord de la rivière de Lubumbashi et d'autres affluents,
merci.
D'autres rivières qui affluent.
Merci Ismaël. D'accord, merci beaucoup.
Mais je sens que l'État
merci,
avait pris quand même certaines mesures.
Ces gens s'étaient... Ismaël, merci beaucoup pour...
Quand même retiré du lieu de la rivière, cela donnait quand même la chance qu'on ne peut pas pleurer.
D'accord. Merci, on a compris vos préoccupations. Professeur Kabasele, vous avez la parole.
Oui, Ismaël est en train de nous inviter à couper la forêt parce que non seulement elle est là...
Avec l'évapotranspiration, il y a beaucoup de quantité d'eau.
Non, la forêt est dans son rôle. La forêt est dans son rôle naturel. Cette forêt nous fait trop de bien. Hein, elle stabilise même la température, elle stabilise le sol. Cette forêt, c'est un écosystème des règlements climatiques. Elle règle les climats d'ailleurs. Cette forêt séquestre le carbone, donne la nourriture aux peuples autochtones. Cette forêt est une chance pour le monde entier. Nous sommes le deuxième poumon mondial. Nous séquestrons pas moins de 26 gigatonnes de bois. Hein, dans nos forêts, la RDC est un géant. Et nous produisons l'oxygène continental pour le monde, parce qu'il y a l'oxygène océanique à partir des phytoplanctons, ainsi de suite, et des algues. Mais notre problème aujourd'hui, ce n'est pas de couper la forêt. Et nous allons diminuer notre capacité de résister au changement climatique, parce que la forêt nous protège. Notre rôle aujourd'hui, c'est de nous adapter. De nous adapter et d'atténuer les effets
de
changement climatique. Et oui. C'est là où je lui donne un peu raison. Parce que, franchement, nous, Quinois, nous avons 2000 tonnes d'eau par hectare et par an.
Par an.
2000 tonnes d'eau.
Donc, c'est trop. On est passé de 1500 à 2000.
Oui. Et entre les mois de novembre et décembre, nous attendons 400 tonnes d'eau par hectare par an. Donc nous attendons déjà presque
le double.
Les un quart d'eau tombe de novembre en décembre. Donc quand vous avez 200 millimètres d'eau ou 200 tonnes d'eau, c'est la même chose par hectare, c'est que vous devez vous attendre à un grand ruissellement.
Oui, maintenant, professeur, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant?
Oui, on doit s'adapter. J'étais à ces micros avant les inondations. Je vous ai dit la première chose, que les sociétés de BTP doivent être interpellées. On ne construit pas les caniveaux des pacotilles dans une grande ville à climat tropical très humide comme Kinshasa.
Ça veut dire qu'il faut améliorer les systèmes de drainage.
Voilà, les systèmes de drainage. Il faut agrandir des caniveaux, les bétonner, les agrandir.
Mais on a des caniveaux, les gens ont construit dessus. Qu'est-ce que les sociétés de BTP ont à voir là?
Non. Ils construisent sans calcul. Ils doivent calculer. Ils doivent connaître quelle est la quantité d'eau maximale qui peut tomber par ici. Et construire en conséquence les caniveaux. Nos routes n'ont pas besoin d'être goudronnées. Nous, on n'a pas besoin du goudron.
On a besoin de quoi?
On a besoin du béton. Nos routes doivent être bétonnées, pas goudronnées. Le goudron, c'est rien pour une pluie de 200 mm d'eau dans un mois.
Ça va détruire.
Ça va détruire carrément.
Complètement, ouais.
Donc, trois, on doit mieux étudier les bassins versants et les ruissellements. Planter les arbres dans toutes les cimes, dans toutes les têtes des collines et faire de sorte qu'il y ait de grosses canalisations, des collecteurs.
Par exemple, sur l'avenue du tourisme, chaque fois qu'il y a une grosse pluie, c'est fini, la route est coupée.
La route Matadi est coupée. Quand vous regardez, c'est là où les bassins versants donnent des grandes pentes. Donc on doit étudier, faire des collecteurs qui prennent les têtes des collines et des montagnes et qui drainent les eaux vers des rivières en bas.
Et construire les murs de soutènement.
Et faire des murs de soutènement. Voilà. Oui. Donc, la voirie urbaine à Kinshasa demande beaucoup de financement et beaucoup de sérieux. Il ne faut pas faire des travaux à la va-vite avec nos amis chinois, ainsi de suite, qui vous font des trucs à va-vite, comme si on est au Tchad et au Mali. Nous, on n'est pas au Tchad et au Mali. On est au Congo, où il y a des pluies, déluges. Et aussi, il y a la responsabilité humaine des Quinois. Moi, je visite Goma, je visite Lubumbashi, je visite toutes ces villes-là. Mais toutes ces villes sont habitées par des Congolais. Et elles sont densément occupées. On ne voit pas des déchets sur la route. On ne voit pas des sachets dans des caniveaux à Goma. Les Gomatraciens et les Quinois sont tous Congolais. Mais pourquoi nous avons des mentalités différentes? On voit toutes les familles des Lemba, de Mongafula, de Gombe, jeter des bouteilles de plastique, des décharges biodégradables, non, des bâtons, des feuilles d'arbre dans des caniveaux. Mais quand vous jetez ça dans des caniveaux, vous rétrécissez le lit. Et quand vous rétrécissez le lit, vous augmentez la pression et la vitesse des eaux. Et c'est ça aussi le problème. Même si on a un bon système de drainage, mais on doit éviter de jeter. Donc ça, c'est la mentalité du Quinois qui est une mentalité aussi à combattre. Trois, la responsabilité de l'État.
Mais l'État est déjà en train de détruire les maisons, les constructions anarchiques.
Exactement, j'ai salué ça. Il faut que ça continue. Même s'il s'agit d'un hôtel, d'un dignitaire du pouvoir actuel, on doit lui expliquer qu'il a mal agi et nous devons casser. Et on doit casser, qu'on casse partout. Parce que les collecteurs au niveau de 1133 boulevard, mais ce collecteur est fermé. Le collecteur qui passe en dessous de l'Institut géographique, qui va jusque Palais de la Nation.
Oui, hein? c'est bloqué.
Mais c'est bloqué, le 11-23.
Parce que les gens ont construit dessus.
Mais le 11, là, comment on appelle ça, le bâtiment, là, 11, si c'est 23, si c'est comment. Hein, le grand bâtiment qui le siège de RPTC. Donc,
c'est 11-13.
Sur, 11-13. C'est sur le collecteur. Quand vous allez vers Gare Centrale, il y a un gros bâtiment en construction. C'est sur le collecteur. Et quand vous allez à Lemba là-bas, donc, c'est comme si les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont trouvé des collecteurs qu'on doit... au contraire, on devait augmenter la quantité de collecteurs sous nos pieds. Quand vous visitez une ville comme Paris, il y a des collecteurs partout. Et malgré ces collecteurs, il y a toujours des inondations. Et nous, le peu de collecteurs qu'on a, on est en train de les boucher par des constructions anarchiques.
Donc
les
même tous ces bâtiments-là, il faut casser.
Mais il faut casser. Il faut casser.
Avec tout ce qu'on a investi.
Ah oui, ben il faut casser parce que le prix de vies humaines sera très amer. La vie humaine n'a pas de prix. Moi, personnellement, je venais le samedi là. J'avais une réunion à 5h du matin. Mais j'ai vu des voitures flotter sur le saut de mouton rond-point Mandela.
À cause de la grande quantité d'eau.
Oui, mais les voitures flottaient, j'ai regardé. Tous ceux qui avaient des petites voitures, ils étaient dans des petits bateaux. Ils étaient
dans des pirogues.
ils étaient dans des petits bateaux. Ils étaient drainés comme, comme des... J'ai vu quelqu'un en train de crier à bord de sa petite ketch. Il criait au secours, mais qui pouvait aller vers lui? Et je les regardais en souriant. Je voyais la beauté du climat. Mais le climat, c'est beau.
Mais pourquoi vous n'êtes pas allé le porter ce
Je ne pouvais pas parce que je ne savais pas à quelle profondeur d'eau il était. Alors, voilà le problème. Et le problème, c'est que tous ces collecteurs refoulent les eaux. Donc, on doit interpeller toutes ces sociétés de construction et de BTP. Et on doit refaire les collecteurs, refaire les caniveaux, bétonner nos routes. Bétonner les têtes des montagnes, les longs du Congo central jusqu'à Matadi.
On regarde les têtes d'érosion là. Les têtes d'érosion, comment les gérer? Tout ça, c'est encore un problème.
Il faut faire des collecteurs dedans. Normalement, un ravin dans une ville est un signe de pauvreté. Un ravin dans une ville est un signe de pauvreté. Le ravin, mais c'est déjà le début là-bas. Vous faites des collecteurs, vous jetez des fondations, vous soulevez des trucs, des structures. Ça doit disparaître. Allez vers Mbujimayi, comment Fatih Béton est en train de faire disparaître les ravins dans la grande ville d'Mbujimayi, qu'on appelait la ville des ravins. Oui. Donc les ravins sont un signe de pauvreté. Il ne faut pas dire aux gens, oh on a des ravins, c'est la pauvreté. Donc aujourd'hui, nous devons nous adapter. Alors nous devons atténuer ces phénomènes.
Surtout avec les grandes quantités d'eau qui vont arriver, c'est extraordinaire.
Oui, oui.
Un instant, professeur, on va accueillir Eminent Mwanda de Bukavu et Blaise Saïdi de Kisangani. Eminent Mwanda, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à tous les auditeurs de la radio. Quelle est votre
question rapidement, Eminent?
Ma question est de savoir, est-ce que casser, c'est la seule solution pour les problèmes qu'on connaît qui se passent? Parce que normalement, nous savons que nous sommes ici à Bukavu, comme je pense à nous, parce que nous appelons des Kinshasa, mais nous devons quand même être pratiques et pragmatiques. Pourquoi je dis ça, M. Jody? Nos villes ne sont pas bien aménagées et on ne peut pas tout jeter, on ne peut pas jeter toutes les responsabilités aux habitants, soit à la population. Parce que il y a tout un service, il y a le service d'habilité pour bien réglementer ça. Et quand il y a des défaillances, ce n'est pas les individus qui doivent subir les conséquences, de l'ingérence du pays, soit de l'ingérence de la société. On doit d'abord interpeller les autorités compétentes dans cette matière-là pour savoir qui avait motivé cette autorité-là d'amener la ville, soit les villes dans ces états là-bas. L'invité a donné un exemple de Goma. Goma n'est pas une ville ailleurs, c'est une ville de la RDC. Mais il y a seulement les gens qui ont pris l'RDC en main, qui ont pris leur responsabilité en main, pour au moins épargner la population à ça. Et quand on a l'État, là veut dire que tous les
gens... D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emina Mwanda. Blaise Saïdi, vous êtes à Kisangani. Bonjour. Et quelle est votre question rapidement?
Bonjour, aujourd'hui. Voilà, je dois aller tout juste en posant à l'invité quelques questions. La première question, quelle politique la RDC a-t-elle mise en place pour lutter contre la déforestation? La seconde question, quelle est la responsabilité des pays industrialisés vis-à-vis des pays comme la RDC, qu'on regarde ce jour des règlements climatiques? Et pour clôturer, quelles sont les lacunes actuelles dans la gouvernance climatique en République démocratique du Congo? Cher Jody, quelques questions que l'invité peut nous clarifier. Merci.
Bien, merci Blaise. Malonga de Bandounouville, bonjour et quelle est votre question?
Oui, bonjour Jody, bonjour à l'invité, à tous ceux qui nous suivent. Bon, ma préoccupation, puisque moi je suis du domaine, je suis de l'environnement, Jody, l'invité vient de dire qu'il faut atténuer le climat. Bon, de quelle façon on peut atténuer ça? Moi, je peux vous dire mon exemple ici. Nous sommes chargés d'assainir le milieu par la loi, puisque nous sommes régis par la loi. Mais aujourd'hui, la mentalité que nous habitons, nous les Congolais, ça nous pousse d'observer ce que nous devrions faire. Puisque si je vois que chez aujourd'hui, en face de lui, il a de la saleté, le terrasse est bouché. Si j'arrive là, Jody va s'opposer de moi comme si moi je n'ai aucune raison. Et si il voit que ça ne tient pas, il va m'appeler quelqu'un qui est supérieur de moi et il va me mater. Bon, comment est-ce qu'on va atténuer le climat? Or, tous les principes sont bien établis. Tout ce qui nous dérange aujourd'hui, c'est facile à rétablir. Mais c'est la volonté qui manque. Et c'est nous-mêmes qui sommes responsables de laisser cet état comme ça. Hein? Vous voyez, le réchauffement climatique est dû de nos activités que nous sommes en train de faire. Il y a mon confrère qui vient de dire là, ce sont les industries des pays industrialisés, les pays puissants, qui font en sorte qu'aujourd'hui le climat soit comme ça. Et si vous voulez dire, je me rappelle du protocole de Tokyo, où l'Amérique avait dit que non, nous ne pouvons pas vraiment diminuer notre façon de fonctionner. Or, il y avait des pressions là. Bon, comment est-ce qu'on va faire? Nous, ici, en RDC, il y a des inondations, oui. À Kinshasa, j'arrive là, je dis, vous-même, vous savez, hein, les terrasses sont bouchées. Dans les grands marchés, si vous voulez dire seulement à quelqu'un qui étale sur la chaussée, vous trouverez que vous êtes devant vraiment un méchant. Et puis vous laissez les agents, ils se découragent et puis ils laissent comme ça. Il faut aussi les rapports à l'hiérarchie. Il ne faut rien. Qu'est-ce qu'on doit faire encore?
D'accord. Merci faire beaucoup, Malonga. Merci beaucoup.
On doit imposer la loi. On doit imposer la loi à la population pour que l'atténuation.
D'accord. Merci, M. Malonga. Professeur Albert Kabasele.
Oui, merci aux auditeurs de réagir en masse. Donc, le processus de négociation du changement climatique à Bonn, en Allemagne, où je siège de temps en temps, repose sur le principe de responsabilité commune et différenciée. Et ce principe oblige les pays pollueurs de payer 100 milliards de dollars par an depuis 2020 aux pays moins pollueurs, qu'on appelle PMA, pays moins avancés, et pays PED, pays en voie de développement. La RDC est dans cette catégorie-là. Le problème, c'est que nous observons au niveau de G20 une certaine irresponsabilité. Les G20, États-Unis, Chine et tous ces pays, et les plus industrialisés, se jettent la balle. La Chine, par exemple, ne veut pas être appelée pays développé. Elle veut qu'on l'appelle pays en voie de développement.
Et pourquoi?
Pour qu'elle reçoive les fonds au lieu de contribuer.
Ok.
Voilà, voilà c'est comment elle se comporte. Et les États-Unis, voyant cela, ils disent, mais la Chine est devenue la première puissance économique, elle doit contribuer. Ainsi de suite. Donc, il y a une guerre. Et ce qui fait fâcher Trump, Trump qui dit, allez, ce sont des négociations de dupes. Je sors de là. Et il est sorti. Donc, il y a un chaos parmi le G20.
Les gens ne sont pas sincères. Il n'y a pas de sincérité.
Il n'y a pas de sincérité.
Oui, dans les échanges.
Il n'y a pas de sincérité, ainsi de suite. Mm. Voilà. Donc, maintenant, au niveau des Nations Unies, on a perdu le combat. Moi, personnellement, j'ai arrêté d'aller dans des COP. Ça fait 2 COP, je ne suis pas parti.
Pourquoi?
Parce que je vois que ça devient la COP des dupes. Donc, on prend seulement les avions pour aller faire les shopping. On n'évolue pas. On n'évolue pas dans les négociations.
On prend des résolutions.
Voilà. Donc, ça commence,
pas de retomber
ça commence
positive,
à m'agacer.
Hein?
Vous avez un très bon ministre de l'Environnement, Eva Bazaïba. Elle se bat. Elle a tout dit. Elle a développé l'aura. Et elle a tout fait. Mais les lignes ne bougent pas. Donc, voilà le vrai problème. Mais qu'à cela ne tienne.
Oui.
Le climat est déjà fâché. Mais nous devons faire un effort au niveau local.
Et oui. Malong a parlé de l'atténuation. Comment travailler sur ces...
L'atténuation, chez nous ici, il faut aller dans la technologie verte. Dans la technologie verte, ça veut dire il faut abandonner la voiture à essence et à mazout. Vous savez qu'on n'est pas encore à mesure. Cette voiture coûte énormément cher pour nous. Et d'ailleurs, nous sommes devenus les cimetières des vieilles voitures. Donc, c'est encore ça le problème.
La technologie du futur, on parle déjà de véhicules électriques.
Exactement.
Avec les matières qui vont...
Qui sont au Congo,
qui vont servir à la fabrication de batteries.
Exactement. Mmh. Donc, le problème, c'est que nous, on ne contribue même pas à grand-chose dans la pollution mondiale. Nous sommes rien jusque-là. Donc, à part le G20, tous les autres États du monde entier, G20, ça veut dire que nous sommes 197 pays et sur la planète, enlever 20 pays qui polluent, les restes ne contribuent qu'à 5% des pollutions mondiales, dont la RDC. Donc, nous ne sommes rien.
Non, nous sommes un pays solution.
Nous sommes un pays solution pour être financé. Mais nous ne sommes pas un pays solution pour aller chercher l'argent de l'État qui a beaucoup de problèmes et commencer à atténuer. Non, nous devons recevoir des fonds de ceux qui ont pollué. C'est là où ça bloque.
D'accord. Et Mme Mwanda vous pose la question de savoir, par rapport à toute cette quantité d'eau attendue, surtout au mois de novembre, ici à Kinshasa.
Novembre-décembre. Il y a 5 mois les plus dangereux. Il y a le mois de novembre, il y a le mois de décembre. Et puis après...
Janvier
et février, ça va. Après, à partir de mars, il faut surveiller et les déluges reviennent en avril et en mai.
Bien. Alors, il vous pose la question de savoir est-ce que casser les bâtiments, tout ça, c'est la solution? C'est la seule solution?
Il s'agit là d'atténuer la colère du climat. Parce que quand vous avez un couloir d'eau qui emporte les voitures et les camions à cause de votre...
Des constructions anarchiques.
Anarchiques. Est-ce qu'on doit vous laisser? Est-ce que l'État devient mauvais? Les mêmes auditeurs se contredisent. L'un parle qu'on applique la loi dans sa rigueur. L'autre dit qu'on ne doit pas casser. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Et moi, je pense qu'on doit casser. Quand tu as construit sur un collecteur, on doit casser.
On doit casser.
Quand tu as bouché le canal, on doit te punir. Vous savez, je m'adresse...
Mais ces gens qui ont acheté, ils ont les documents de l'État, professeur.
Exactement.
Ils ont des titres délivrés par les services
de l'État. L'État doit les dédommager. Et je soulève ici un problème. Il faut une responsabilité pénale historique des autorités de l'État. Tu as été conservateur, tu as commis des actes,
Tu as délivré
des titres à un endroit interdit. Même si tu es pensionné, on te poursuit, on t'arrête. Et là, parce qu'il y a des gens qui font des choses et ils sont retraités, ils partent et ils laissent le pays dans le chaos. Donc, on doit les poursuivre. On doit dire, il y a 15 ans, voilà ce que tu as fait à Mongafula. Tu étais conservateur et on doit te poursuivre. Ça doit être fait comme ça. Et nous sommes une ville de la plaine. Une ville de la plaine, ça veut dire les eaux stagnent, viennent des cimes, des collines et stagnent. Et nous avons déjà des problèmes d'évacuer les eaux. Mais quand on bouche les canalisations, on accentue, on fait de notre ville un bassin. Et alors, c'est l'inondation sur toute la ville. Et nous devons aujourd'hui appliquer la loi dans toute sa rigueur, c'est-à-dire punir, sévir. Vous avez, même les problèmes d'embouteillage. Vous savez pourquoi il n'y a pas d'embouteillage dans des grands pays?
Pourquoi?
Ce n'est pas parce qu'ils ont des routes bien construites ainsi. À Kinshasa ici, même si on faisait des gros ouvrages, des routes larges, il y aura toujours des embouteillages parce que les mentalités des gens ne changent pas. Donc, pour venir ici, quitter ISPT vers Itex Africa Radio Okapi, j'ai mis une heure.
Sur la route.
Pour un kilomètre de distance, j'ai mis une heure. Pourquoi? Parce que tout le monde est pressé, tout le monde veut prendre sa voie, ainsi de suite. Donc, atténuer le climat, il faut un changement de mentalité. Il faut aussi qu'il y ait une police environnementale. Le ministère de l'Environnement ou l'armée, je ne sais pas s'il faut créer ce service. Il faut qu'on ait un service qui ne s'occupe que de l'environnement. On contrôle là où on est en train de couper la forêt, dans des collines. On fait des rapports, on punit. On regarde là où on est en train d'inonder Makelele des immondices, on interpelle, on nettoie les lits des cours d'eau, on vérifie les canalisations. Il faut qu'il y ait des services comme ça. On n'en a pas. Et peut-être qu'on en a sur papier. Quand vous allez au ministère de l'Environnement, on vous dit il y a un service d'assainissement. Mais ce service d'assainissement est où? Et quand vous regardez l'hôtel de ville enlève.
Il y a un service d'assainissement.
Voilà, ils enlèvent des déchets dans des caniveaux et ils les abandonnent là-bas. Jusqu'à ce que la pluie prochaine arrive, ça retourne. Donc moi je me demande, on est quel peuple là? Donc le vrai débat.
Non, on dit souvent quand on cure les caniveaux, il faut laisser les sables sécher et puis après on peut évacuer facilement.
Et sans connaître le programme de la pluie. Parce que vous laissez sécher pendant deux jours et une autre pluie tombe, ça rentre. Est-ce que c'est compréhensible?
Bon,
donc,
ça,
c'est ça le vrai problème. Alors, nous devons, au niveau de notre budget, ne pas toujours attendre les fonds des Nations Unies, des fonds verts, comme on en parle ces derniers temps. Non, il faut que l'État lui-même mette la main à la poche.
Donc c'est maintenant qu'on doit se préparer. Il ne faut pas attendre qu'il y ait encore d'autres catastrophes.
Exactement.
Pour,
et c'est
pour
là que je voulais arriver.
Oui.
Pourquoi je parle de l'adaptation? On ira toujours des inondations en inondations. On ira des glissements de terrain en glissements de terrain, surtout au mois de novembre, décembre, avril et mai. Ces quatre mois-là,
il faut s'attendre
alors,
au déluge.
Maintenant, les gymnases dans des endroits sécurisés pour accueillir les gens, c'est le moment de les construire. Faire des gymnases et préparer des installations hygiéniques pour recevoir...
pour accueillir les sinistrés.
Voilà, accueillir des sinistrés, des déplacés climatiques. On ne peut pas les appeler les réfugiés climatiques, mais les déplacés climatiques internes. Et faire des gymnases par-ci, par-là. Il nous faut préparer un corps médical adapté aux géorisques. Donc, ceux qui doivent s'occuper des géorisques, ça veut dire qu'il y a des maladies qui arrivent après les inondations. Il faut savoir les prendre en charge. Vous allez voir ce qu'on appelle choléra, malaria... Et ça va s'intensifier sur la ville après ces inondations.
Il faut déjà préparer les équipes.
Il faut qu'il y ait les hélicoptères. Ce n'est pas fait seulement pour l'Europe, pour aller prendre les gens qui sont sur les toitures des maisons,
qui sont bloqués, qui savent pas comment.
Mais il faut des hélicoptères. Il faut préparer ces pilotes. C'est le moment. Il faut commencer à faire des exercices. Et il faut planter les arbres le long des routes, dans des écoles, dans des églises. Il ne faut pas...
Les endroits où il y a souvent les éboulements, comme sur la route,
il faut
des murs de soutènement ou un couvert végétal.
Couvert végétal, mur de soutènement. Vous voyez comment on a fait Mongafula, quand vous descendez vers... pour prendre Mongafula pour aller à l'Unukin.
Tout à fait.
Cet endroit-là. Mais tout le monde passe. Si le Belge n'avait pas fait ça, ou Mobutu...
Non, ce serait la catastrophe.
Ce serait la catastrophe. Vous voyez que ça sécurisait même les populations qui habitent là. Mais maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous, on est venus... Dans le contrebas, on a donné des maisons. Quand on quitte Mongafula pour descendre vers Triangle de l'Unukin, on a donné des maisons partout là. Alors que C'est un endroit où il fallait mettre la végétation. Donc tout ça, il faudra que les Congolais respectent les normes urbanistiques parce que le climat va être amer pour tout le monde.
Bien, professeur, il y a Blaise Saïd de Kisangani qui vous pose la question de savoir quelle est la politique de lutte contre la déforestation et quelles sont les lacunes que nous avons par rapport à la gouvernance climatique.
Exactement. Notre pays perd à peu près 120 000 hectares de forêt par an, donc à cause de la déforestation. Nous avons des villes sans jardin, sans couloir d'air, sans îlots d'évapotranspiration. Nous avons des villes et des cités où il y a des dômes de chaleur, des températures caniculaires. Et en avril, là, on atteint 38 à 40 degrés sur la ville de Kinshasa. 38 à 40 degrés à l'ombre, s'il vous plaît. Donc, c'est trop. Alors, le vrai problème, c'est que sans arbres, nous allons étouffer. Je conseille à tous ceux qui m'écoutent, ceux qui ont une signature, une parcelle de pouvoir, ceux qui sont responsables des concessions ou des domaines, et l'église et catholique, Senko, l'ECC, l'église musulmane, dans toutes leurs concessions, de planter les arbres. Il ne faut pas qu'ils demandent à l'État de le faire.
Il y a un projet d'un million d'arbres, vous vous souvenez?
Oui, mais on ne doit pas attendre
on
même
ce
projet.
On peut le relancer là.
Moi, j'ai dit souvent à mes étudiants, des Lupen, des Lunukin, des Lunukis, partout où je passe, je leur pose la question, qui a déjà planté un arbre chez ses parents? Personne dans la salle ne lève la main. C'est anormal. Vous avez la terre, vous ne plantez pas les arbres chez vous. Vous avez des avenues dénudées d'arbres. Aucune avenue n'a des arbres. On marche sous le soleil. On doit marcher sous les arbres et non sous le soleil. Tous les arbres qu'on avait le long de boulevard du 30 juin ont été coupés. Moi, je me rappelle que l'avenue du 30 juin, c'était l'avenue verte, le boulevard. C'était le boulevard vert. Tous les arbres qu'on avait des bois noirs de part et d'autre ont été coupés. Et non remplacés. On les a remplacés par des petits palmiers du désert. S'il vous plaît. Vous enlevez les arbres appropriés, vous les remplacez par des petits palmiers
du désert.
Du désert, parce que c'est beau à voir. Hein?
Ben, donc, ce sont des palmiers modernes.
Écoutez, c'est n'importe quoi. Donc, le vrai débat, c'est que chacun devant sa parcelle doit planter au moins. Devant sa parcelle. Et veillez sur ce que tu as planté comme arbre là. Tout le monde le fait, Kinshasa deviendra une forêt. Est-ce qu'il faut un programme pour ça? Ou il faut une prise de conscience? Les écoles, tu es préfet d'une école. Tu ne fais que couper même le manguier que tu as trouvé pour construire de nouvelles classes et créer la promotion 2e A, 2e B, 2e C.
Oui.
Et aucune école n'a des arbres. Même les arbres qu'ils avaient trouvés, les préfets ont tout coupé. Mais nous, quand on a étudié à Mikalaï, dans des collèges, c'était sous les forêts qu'on étudiait. Aujourd'hui, on a allé même à Boboto. Les anciens arbres qu'on avait laissés par les jésuites là, tous sont partis. Allez.
Mais il y a des arbres qui ont vieilli peut-être.
Mais il faut les remplacer, c'est ça le problème. Les longs des avenues, il faut planter les arbres. Donc ça, il ne faut pas attendre l'État. C'est chacun qui doit prendre sa responsabilité. Et planter un arbre devant votre maison, dans votre parcelle, c'est anormal pour un Congolais, et surtout un Kinois, qui préfère une maison pour mettre des locataires. Et là où il y a un arbre, on coupe pour faire un ligablo sur l'avenue. C'est ça le problème. Donc bien. On n'a pas compris.
Professeur, on va terminer avec la question des Matalatala de Kisangani. Bonjour.
Bonjour, c'est Matalatala de la ville de Kisangani et bonjour au professeur Kabasele.
Quelle est votre question, Matalatala?
Bon, moi j'ai juste l'observation parce que ce qui se fait, c'est notre gouvernement qui a de la terre et de mauvaises gestions. Parce que pour construire une ville, il faut d'abord les ouvrages de canalisation.
Oui.
On a des cités qui n'ont pas des ouvrages de canalisation qui causent tout ça. Essayons de voir une fois l'eau a inondé la ville et après il n'y a pas de vertir pour que l'eau puisse ruisseler. C'est tout ce qui crée maintenant toutes ces catastrophes.
D'accord, merci beaucoup. On va accueillir un autre intervenant de Kisangani. Il s'agit d'Adélar Ngengele. Voilà. Adélar, bonjour.
Ah, bonjour, monsieur le journaliste.
Rapidement, quelle est votre question? Rapidement.
Oui, en fait, comme il n'y a pas assez de temps, je voulais donner quelques observations, mais je vois tout droit vers la question.
Oui, rapidement.
La question est de savoir,
Oui,
quelle est la politique que le ministère de l'Environnement avait mis ou met pour essayer de sensibiliser au moins, ne serait-ce que un temps ou une période quelconque, pour que les gens soient au courant. Parce que nous voyons les agents de l'environnement passer. Vous allez les trouver dans des entreprises en train de demander, nous sommes les agents des environnements. Mais tellement une entreprise quelconque, devant une entreprise quelconque, vous les trouverez, ils trouvent même la saleté.
D'accord.
Bouche déjà le caniveau.
Mais merci. Merci beaucoup, Adélar. Professeur Albert.
Je pense que la lutte contre le réchauffement climatique exige beaucoup de moyens et l'implication des experts. Pas seulement l'État, mais il faut aussi que l'État soit non seulement présent, exigeant et répressif. Alors, je prends la situation au niveau de la science. Et ce n'est pas pour rien que professeur Kabasele demande qu'on dote le Congo d'un satellite. Parce que il y a des prévisions que Metelsat peut faire. Mais des prévisions en temps de saison sèche, comme ce qui s'est passé le samedi passé, et on les appelle les inondations surprises. Ces inondations ne peuvent pas
Ça peut échapper
aux prévisionnistes,
oui.
Parce qu'ils n'ont pas eu les yeux dans l'espace pour voir. Il n'y a que des pays comme la France, par exemple, les États-Unis, l'Inde, comme ils ont leurs satellites, ils verront le mal venir et ils vont
on peut prévenir la,
ils
la
vont les prévenir.
Oui.
Vous n'avez que des images satellitaires que le pauvre Kabasele mendie auprès de ceux qui ont des satellites. J'ai dit bien que je suis en train de mendier ces images. Donc on vous donne une image, vous traitez, vous essayez de conseiller votre population et vos politiques, ainsi de suite. Donc, avoir le satellite doit être une priorité.
Une priorité.
C'est
ça coûte combien, professeur?
Mais on détourne dans ces pays, j'entends 20 millions détournés, ainsi de suite, 100 millions détournés. Moi, j'ai besoin de 10 millions de dollars. Avec 10 millions de dollars,
oui,
je lance un défi au chef de l'État. Avec 10 millions de
on
dollars,
peut acquérir,
on a le satellite pour la RDC. 10 millions et
tout neuf ou d'occasion.
Tous les calculs, on ne donne jamais les satellites d'occasion. On les fabrique sur mesure pour l'État. Et c'est déjà prêt. C'est déjà prêt. J'ai demandé 10 millions. Tous ceux qui m'écoutent le savent. 10 millions pour faire le plus simple. Et pour faire les sophistiqués, 100 millions.
100 millions.
Voilà. Donc, pour faire le plus simple, avec 10 millions, le Congo a le satellite et nous, vos scientifiques, nous
sommes
là.
Merci beaucoup, professeur.
Donc, on ne peut pas aller plus loin.
Oui.
Et je demande que la population...
On n'a plus de temps, professeur.
La population soit prévenue.
D'accord.
Il y a 4 mois à surveiller en RDC.
Merci, professeur.
Les mois de novembre, décembre, avril et mai.
Professeur Kabasele Yenga Albert, merci et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie.